En ce moment, je pense au projet, puis j'ai juste envie de pleurer. Ça me fait peur d'avoir une famille qui sera peut-être pas reconnue par l'État. Je suis une personne qui doute beaucoup. Tous les jours, je remets en question mon choix de carrière, l'endroit où je vais habiter, je doute de tout le temps. Mais c'est comme si dans mon projet de famille, j'avais pas le droit de douter. Il faut que je sois toujours prête à convaincre de la validité de notre projet. Parce que si je remets en question mon désir d'enfant avec Kathleen, ça va donner des arguments à tout le monde qui croit pas en la possibilité de faire famille en dehors du couple. Je peux pas faire ça. Parentèle, en quête d'une famille qui nous ressemble. Épisode 4, le doute.
L'enjeu légal est très simple. Le droit permettrait pas à Maude d'avoir aucun lien de filiation avec l'enfant.
Michaël Lessard, juriste et doctorant en droit.
Donc, là, dans le contexte qui nous occupe, on ferait face à de la procréation assistée parce qu'il y a un tiers qui s'implique dans le projet parental, donc en l'occurrence le donneur de sperme. Mais quand tu fais de la procréation assistée, puis c'est la même chose pour l'adoption, soit que tu le fais seul, ou soit que tu le fais avec quelqu'un qui est ton conjoint ou ta conjointe. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait une union de droit ou de fait entre les deux personnes.
OK. Ça peut pas être deux en coparentalité. C'est absolument la conjugalité qui détermine si on peut mettre le nom d'une personne sur un acte de naissance.
Exact.
Puis, est-ce qu'une option pourrait être que Kathleen et moi, par exemple, on se marie?
Donc, c'est sûr que s'il y a un mariage, à ce moment-là, on a deux conjointes, donc qui peuvent soit adopter ou qui peuvent avoir un projet parental de procréation assistée. Le problème, c'est que si on se marie sans avoir une intention de former une vie commune de couple, à ce moment-là, c'est un mariage qui pourrait être déclaré illégal.
Puis, qu'est-ce qui fait qu'on est conjoint ou conjointe? Comme parce que, par exemple, ouais. Kathleen et moi, on a envie de former une vie commune. T'sais, techniquement, on habiterait à la même adresse ou on aurait un duplex. Mm-hmm. Ou... Fait qu'on a cette intention de fonder un foyer. Fait que pourquoi est-ce qu'on pourrait pas être reconnu comme conjointe?
Mais la notion de vie commune, malgré tout, c'est pas juste habiter à la même adresse. Des colocataires, par exemple, peuvent pas être en union de fait. Il faut faire une vie commune au sens romantique du terme puis avoir une intention de former un couple.
Fait que... À partir de là, est-ce que, mettons, juste parce que Kathleen et moi, on n'a pas de sexualité, là, on ne pourrait pas être défini comme un couple?
Mais ça, c'est intéressant parce que tu mets vraiment le doigt sur un point d'incertitude dans le droit. Puis les relations sexuelles ne sont pas nécessairement importantes. Tu as des gens qui vont être mariés plusieurs années sans avoir de relations sexuelles. Tu as des gens qui vont être mariés, mais qui vont commettre de l'adultère. Donc, pour comprendre le droit de la famille, il faut vraiment comprendre qu'on part... d'un noyau traditionnel, de la famille hétérosexuelle qui est liée par un mariage. Puis on a tenté, le droit a tenté de plus en plus d'élargir l'inclusion de ces personnes-là. On est dans un espace où on se base vraiment sur nos intuitions. C'est surtout les juges qui se basent sur les intuitions puis se demandent est-ce que la situation devant moi allait comme quelque chose qui pourrait ressembler à une union maritale. Et là, je pense qu'il y a moyen de mettre de la pression sur ce constat-là, parce qu'effectivement, peut-être qu'on doit aller encore plus loin dans notre compréhension de qu'est-ce qu'une vie commune, puis venir inclure des types de relations qui s'éloignent de plus en plus de cette figure traditionnelle.
Qui est fortement inspirée de tout notre bagage judéo-chrétien, j'ai l'impression.
Exact.
Fait oui, qu'on se dit une société un athée, très... ouais. Mais notre définition de la conjugalité, elle découle directement du mariage.
En réalité, on reste avec la même figure traditionnelle d'un couple qui est en charge d'une famille. Et même si certaines formes de conjugalité homosexuelle sont de plus en plus incluses, on est quand même toujours dans cette idée du couple où on va pas, donc, on va pas prévoir des régimes particuliers pour le polyamour ou la pluriparentalité. Donc, c'est pas des éléments qui sont vraiment imaginés par le droit québécois.
Puis pour compliquer encore plus la situation, disons que et Kathleen et moi, on a des partenaires. Mm-hmm. Est-ce que ça peut venir jouer sur l'interprétation de notre vie commune à nous deux si on décide d'avoir des enfants ensemble?
Oui, tout à fait. Ça, c'est sûr que ça rend vraiment difficile le fait de faire un argument que vous êtes en union de fait. Parce que les deux critères pour l'union de fait, c'est la vie commune, puis c'est celle de se présenter comme un couple face à la société. Donc, ce critère-là est évalué selon l'idée qu'on peut juste faire partie d'un seul couple en même temps. Et comme la société a de la misère à comprendre qu'il est possible de faire partie de plus d'un couple, bien nécessairement, on va échouer le test là, de l'union de fait.
Puis, je pensais qu'une fois que l'enfant est né, il y a un acte de naissance ou un certificat de naissance.
Ouais.
Puis que là, c'était possible de marquer les noms des deux mères dans ce cas-ci. Mmh. Est-ce qu'à partir de là, la filiation serait reconnue?
Bien, à ce moment-là, pour mettre le nom d'une autre personne sur l'acte de naissance, il va vraiment falloir que ça soit le conjoint ou la conjointe. Après l'accouchement, il y a des formulaires qui sont envoyés au directeur de l'État civil pour dresser l'acte de naissance. Il est possible que le directeur décide de faire certaines vérifications, notamment si le directeur de l'État civil écoute la balado. Ça reste une situation risquée, là, mais effectivement, il est possible que la vérification ne soit jamais faite.
Je ne suis pas de celles qui luttent. Je n'ai pas la force des militantes, de celles et de ceux qui sans cesse osent revendiquer, éduquer et combattre. Je n'ai pas le courage de prendre la parole en public, de risquer la haine, la violence, le mépris. Je vais dans des manifs, mais je ne parle pas trop fort. Je n'aime pas les slogans, je ne sais pas si je suis d'accord avec le groupe et la masse. Alors je n'ose pas crier, alors je n'ose pas crier.
J'ai peur des commentaires sur les réseaux sociaux. J'ai peur qu'on dise « Elles sont folles, elles sont dangereuses, ça va trop loin, il faut protéger nos enfants. » J'ai peur que le balado soit réutilisé en cours contre moi un jour. J'ai peur de perdre la garde de mon enfant parce que mon amour pour lui fit dans aucune case. J'ai peur de pas avoir les mots pour lui expliquer sa différence.
Je ne suis pas de celles qui luttent. Je n'ai pas la force des militantes. Je suis déjà trop fatiguée. Je suis déjà trop fatiguée.
Peut-être que je devrais tout laisser tomber. Je pourrais m'installer à la campagne puis faire un grand jardin, juste m'occuper d'un jardin. Un jardin, c'est plus écologique qu'un enfant. Tout le monde pose des questions. Comment vous allez faire si vous vous chicanez, si votre chum aime pas ça, si vous avez pas les moyens? Comment? Je réponds, j'essaie de convaincre patiemment. Je répète, je dis, je crois que ça se peut, j'ai l'air solide. Mais au fond, je m'ébrèche.
J'ai trop peur, tout le temps trop peur. Pour oser dire quoi que ce soit, pour oser quoi que ce soit.
Les fêlures courent par en dedans. Je me répands sur le plancher du salon.
Ça va, maman?
Ça marche pas. On peut pas avoir une famille ensemble.
Ah, là... Non, mais pourquoi tu dis ça?
La filiation entre moi et l'enfant peut pas être reconnue parce que la loi est discriminatoire. C'est trop risqué.
Attends, là, tu dis plein de mots que je comprends pas. Là, tu peux-tu...
Je suis pas reconnue comme parent parce qu'on n'est pas un couple. Techniquement, on n'a pas le droit à la procréation assistée, pis on pourra enquêter sur nous si on met mon nom sur le certificat de naissance.
C'est ça parce qu'on n'est pas...
Parce qu'on n'est pas un couple, genre, au sens romantique du terme.
Maman, là, wow. C'est pas grave, là, y a personne qui va savoir qu'on n'est pas un couple. Je veux dire, écoute, on a juste à se pointer là ensemble. Ils vont penser qu'on est un couple parce que... Parce que tout le monde pense qu'on est tout le temps un couple. On se tient la main. Puis je te donnerai des petits becs au pire, là, ça va être correct.
Si ton chum va être là à l'accouchement, ça va provoquer des soupçons.
Je dirais que c'est mon frère.
Non, il y a un accent russe.
Mais on verra, là, rendu là. C'est pas grave, je le laisserai à la maison.
Il y a le problème du balado aussi. Si le directeur de l'état civil écoute le balado...
Le directeur de quoi?
Le balado, si le directeur de l'état civil écoute le balado, il va savoir qu'on se définit pas comme un couple. Il pourra enlever mon nom du certificat de naissance.
OK, là... Momo, y a pas tant de gens qui veulent écouter, là. On passe pas au téléjournal. On fait un petit balado.
Tu penses que c'est pas important, le balado?
C'est vraiment pas ça que je dis, là. voulais pas.
Tu comprends pas la gravité de la situation.
Non. En effet, je comprends pas. Fais juste te calmer, là, puis juste m'expliquer.
Oh my God, dis-moi pas de me calmer.
Oh my God, on dirait que tu joues dans le district 31, là. Il y a pas de mort à ce que je change.
On dirait que tu te sens zéro concerné. Ni par mes recherches, ni par le fait que ma parenté soit peut-être pas reconnue. T'es complètement désengagée.
Hey, là, excuse-moi, là, tu... Non.
Tu t'impliques pas. On dirait que je suis la seule à vouloir travailler pour ce projet-là.
Hey, OK. Wow, là, ce projet-là. Tu parles du balado ou du projet de famille?
Les deux, c'est lié.
OK. Non. Maud, je sais pas comment te le dire, là. Mais t'es vraiment privilégiée de pouvoir consacrer autant de temps à faire des recherches, à étudier puis à réfléchir là-dessus.
Pardon?
C'est pas tout le monde qui a le luxe de se poser autant de questions.
Et ce serait peut-être mieux si le monde se posait un petit peu plus de questions.
Penses-tu que t'es meilleure que les autres parce que t'as lu 20 livres sur le sujet? Parce que t'as rencontré des experts? Qui rencontre des experts avant de faire un bébé?
T'es méprisante, là.
Je ne peux pas te suivre dans ton enquête parce que je suis en fin de session, que je travaille 20 heures pour payer mes études, puis parce que c'est pas ma job, moi, de faire un fucking balado sur notre futur enfant.
Je sais même pas si je veux encore un enfant.
Oh wow, OK. Tu veux plus d'enfants.
Je trouve ça trop risqué, puis compliqué. Puis, avec l'état de la planète en ce moment, anyway, là, la crise environnementale...
Porte la crise environnementale, là. Je pense pas que c'est la planète qui t'a fait changer d'idée du jour au lendemain.
C'est la convergence de plein d'affaires.
OK. T'as raison. Je garde un pied en dehors depuis le début, puis tu sais pourquoi? Parce que je voyais ça venir. J'ai l'impression que t'as plus envie de parler de notre future famille que de l'affaire. Depuis le début, c'est juste la théorie qui t'intéresse. Est-ce que tu veux vraiment un enfant avec moi? Ou est-ce que tu veux juste dire que tu veux un enfant avec moi?
Je sais plus ce que je veux. Je voudrais m'excuser. J'ai l'impression d'avoir tout gâché. Je voulais juste que d'autres me disent « Ouais, ouais, ça se peut. Nous, on le fait. Écoute. Écoute notre belle histoire. » Je voulais que tous mes doutes s'envolent comme dans un conte de fées. Elles vécurent heureuses, eurent enfin un enfant et ne se posèrent jamais plus de questions pour le reste de leur vie.
Elles vécurent heureuses et ne se posèrent jamais plus de questions pour le reste de leur vie.
J'ai rendez-vous avec Aurélie. J'essuie mes larmes. Je ramasse mes miettes de rêve puis mon enregistreuse. Quoi faire, à part continuer ce que j'ai commencé? Aurélie, comme moi, n'a pas encore d'enfant. Comme moi, elle réfléchit beaucoup à la famille qu'elle a envie de construire.
En ce moment, je veux des enfants, puis je veux des gens qui s'impliquent complètement avec amour autour de moi. Je réfléchis beaucoup au concept de coparentalité, malgré le fait qu'il y a certains éléments un peu bloquants au Québec qui rendent la chose moins sécuritaire.
Elle me parle des similarités entre son cheminement queer et la manière dont elle souhaite construire sa famille.
En tant que femme trans qui veut devenir maman, je pense justement pouvoir amener ces deux sphères-là ensemble pour en discuter, c'est très important. On reste dans une société qui est très hétéronormative. Même si je suis lesbienne, on peut très bien mettre des normes hétéronormatives à nos familles. Puis je veux vraiment pas de ça. Je veux que la famille soit queer. Pas dans le sens que tout le monde, je veux qu'il élève mes enfants ou que mes enfants doivent être gays en tant que tel. Juste comme queer dans un sens politique de transcender un peu les normes hétéronormatives qu'on a dans notre société. Ça, pour moi, ça a un lien très fort avec le fait d'avoir une communauté, plusieurs parents qui entourent le ou les enfants. Puis ça veut pas dire que tout le monde dans le groupe serait comme, se nommerait parent. Là, ça serait à comme définir pour chacune des personnes la façon de s'engager là-dedans.
Je me confie sur ce que je vis avec Kathleen, sur les blocages qu'on rencontre, sur les réactions que ça fait naître autour de nous.
On invalide très rapidement, genre, la complicité, la permanence de l'amour, d'amitié par rapport à celui d'une relation amoureuse où qu'on est comme « Ah, ben oui, c'est sûr que tu veux un enfant avec ton chum, là, vous êtes rendu là. » Alors qu'avec des amis, ça va jamais être sur la table. On va jamais pouvoir en discuter. Puis justement, si t'en parles, c'est comme « Hein? Mais non, qu'est-ce qui arrive si vous êtes plus amis, là, hein? C'est quoi que vous allez faire à ce moment-là? » Puis c'est comme, ben, ça arrive constamment avec les couples, là. Avec les couples monogames, il y a des taux de divorce très élevés quand même. Puis on n'est pas comme, ah, oh, ouais, vous voulez un enfant? Ben, qu'est-ce qui arrive si vous rompez? Alors que moi, je veux juste qu'il y ait plus de compréhension, qu'il y ait une plus grande acceptance, puis il y a une plus grande curiosité. Puis il y a beaucoup d'éléments qui sont pas nécessairement connus des gens ou qu'il y a des préjugés. Il y a un cadre légal qui n'est pas présent. Et ça, c'est pas une sens que ça me fait peur, mais ça crée un frein. C'est quoi qu'on veut pour élever nos enfants? Ben, c'est avoir un groupe de support, avoir le plus de gens qui veulent se donner pour voir cet enfant-là grandir, être bien puis être aimé.
Je lui demande ce qu'on peut faire pour faire changer les choses, pour que, éventuellement, ce soit envisageable d'élargir notre définition collective de ce qu'est une famille, afin d'inclure des gens qui sont en ce moment privés de reconnaissance.
Une forme de militantisme qui reste très important pour faire changer les choses, ça, c'est pas avoir peur de vivre de façon authentique, justement, ce genre de choses-là. Continuer à fonder des familles coparentales, vivre pleinement de façon queer, puis de le montrer. Prendre, justement, cette position de porte-parole informelle dans cette petite communauté-là, c'est pas nécessairement tout le temps facile, là. Une certaine aisance à vouloir correspondre à certaines attentes qu'on pourrait établir. Il y a un confort qui vient avec ça. Puis de vivre de façon authentique, après ça, ça permet d'ouvrir la porte à beaucoup plus de témoignages, à normaliser beaucoup de choses qui autrement resteraient un peu cachées. Le projet en tant que tel, c'est pas que toutes les familles soient coparentales en tant que tel, c'est que toutes les familles puissent être pleinement authentiques. Puis là, à ce moment-là, je pense que justement de comme entreprendre ces expériences de vie-là, déjà, même si l'encadrement n'est pas là, ça reste un geste extrêmement puissant.
Je me sens soudainement extrêmement naïve. Par l'intermédiaire de mon projet d'enfant avec Kathleen, je rencontre, pour la première fois, une forme de violence institutionnelle. J'avais juste pas encore réalisé, avant ma discussion avec Aurélie, que si je peux rêver d'avoir une famille avec Kathleen aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une trolée de personnes avant nous qui se sont battues, puis qui ont décidé d'être authentiques par rapport à leurs désirs, même si c'était dangereux, puis bizarre, puis pas protégé par la loi. Il y a quelque chose en dedans de moi qui veut plaire, qui veut correspondre aux standards. Ça me fait plus peur que j'aimerais l'admettre de choisir un chemin qui va pas susciter l'approbation de tout le monde. Au final, à travers toute cette quête-là, j'essayais pas de convaincre les autres que ça se pouvait. J'essayais de me convaincre, moi.
Tu dors pas?
Non.
J'aimerais ça. C'était un bon moment pour revenir sur ce qu'on s'est dit hier.
Je m'excuse. J'aurais pas dû... Je pensais pas tout ce que j'ai dit.
T'as dit que j'étais désengagée. Je suis pas désengagée.
Je sais.
Je suis ouverte à ce qu'on jase. Qu'on se pose plein de questions sur la famille. C'est juste que ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on décide quelle couche on veut acheter ou réfléchir la logistique de garde. C'est ça que je veux. Mais je ressens pas le besoin de faire une enquête sociologique sur la famille au Québec.
Tu comprends?
Puis c'est vraiment correct, là, si toi, t'as besoin de ça. Mais je pense vraiment que ça t'appartient. Puis tu peux pas prendre pour acquis que j'ai envie de m'impliquer autant que toi là-dedans. Je me suis jamais engagée là-dedans. Mais Ce qui me fait vraiment la peine, je pense, c'est... Est-ce que tu veux vraiment plus d'enfants?
Je sais pas. Je pense que j'ai besoin de temps pour comprendre ce qui me fait hésiter. Puis je veux qu'on discute des répercussions que ça peut avoir si je suis pas reconnue légalement.
Je comprends.
Je suis pas capable de donner une réponse claire. Il y a quelque chose qui crie genre « Oui, tu veux des enfants avec elle. Cours, lui dire avant que ce soit trop tard. » Puis en même temps, il y a aussi une petite voix qui se demande « Est-ce que tu vas encore m'aimer si jamais je te dis que je veux plus d'enfants? »
Tu me niaises-tu?
Comment tu vas me présenter si je suis plus la future mère de tes enfants? Comment tu vas me présenter à ton entourage?
Hey, voyons, maman! Franchement, c'est sûr que je vais continuer de t'aimer. Qu'est-ce que tu penses? On trouvera d'autres mots. La femme qui a presque porté mon enfant.
C'est bien correct, sinon des échanges, je veux dire. Je vais être triste. Ça va être un deuil, mais je pense pas que ça va détruire l'amour que j'ai pour toi.
Mais pour vrai, je pense que je veux encore un enfant. C'est juste... J'ai vraiment paniqué hier. Puis je pense qu'il faut que je creuse pour comprendre pourquoi. Mais j'arrive pas à me plonger dans la réflexion pour vrai parce que j'ai vraiment peur de te perdre si jamais je réalise que je...
Prends le temps d'y penser, maman. Mais je peux te dire. Et pas peur de ce que tu vas trouver parce que. Moi, je vais être là anyway, OK?
OK. Puis je m'excuse, t'as raison, je pense que j'ai pu instrumentaliser notre relation à des fins politiques.
J'ai jamais dit ça, moi.
Peut-être pas dans ces mots-là, mais.
De toute façon, c'est pas ça qui me dérange. Instrumentalise-la, notre relation. Je suis d'accord pour que t'en parles en public. Je veux juste pas avoir l'impression que tu le fais plus pour le politique que pour les vraies émotions que t'as pour moi. Tu vas-tu continuer ton enquête?
Je sais pas. J'aimerais ça.
Moi aussi.
OK.
Il y a sûrement plein d'autres gens qui rencontrent des obstacles légaux ou administratifs dans leur désir de parentalité juste parce qu'ils ou elles évoluent pas dans le modèle traditionnel du couple. Je veux leur parler. Je veux savoir comment ça se passe de leur côté. Quelles émotions ça fait surgir. Je rencontre Jonathan, Justin et Eric. Ils vivent, eux aussi, une relation qui s'inscrit pas dans le cadre du couple monogame hétérosexuel.
Justin et moi, ça fait 16 ans qu'on est ensemble.
Oui, tout à fait.
Et donc, on a rencontré Eric il y a 4 ans. Et on forme depuis un trouple.
On est un peu la forme, entre guillemets, relativement conventionnelle du polyamour. C'est-à-dire qu'on est un noyau dur, donc on est les trois ensemble. On n'a pas de relation à l'extérieur du trouple qu'on constitue.
Depuis maintenant 5 ans, Justin et Jonathan sont dans un processus d'adoption auprès de la Direction de la protection de la jeunesse, la DPJ, par le biais du programme de banque mixte. Quand Eric est arrivé dans leur vie et que la structure de leur relation a mué du couple au trouple, ils ont tous été confrontés à l'épineuse question « Comment intégrer leur forme relationnelle encore marginalisée dans leur projet d'adoption? »
On a contacté la DPJ en leur disant qu'on tendait la main, qu'on savait que c'était pas un modèle qu'ils connaissaient, qu'on voulait pas révolutionner la vie, en ce sens qu'on sait pertinemment qu'on peut pas adopter à trois. Donc, on leur proposait le modèle d'adoption à deux, en incluant une troisième personne qui pourrait jouer un rôle de parent, un peu comme un oncle, comme une tante, comme une grand-mère, peu importe. On a eu plusieurs rencontres avec eux pour leur expliquer tout ce cheminement-là. Puis on comprenait à travers les rencontres que ben on s'en allait pas vers une réponse positive.
Ils ont pris la décision d'arrêter, de poursuivre dans ce modèle.
Et donc à ce moment-là, ben on s'est retourné en fait vers une avocate qui nous a aidés à changer la manière de dialoguer peut-être avec la DPJ parce que à ce moment-là, nous, nos outils, nos ressources avaient atteint leurs limites. Notre avocate a parlé avec l'avocat de la DPJ, puis leur a présenté la situation en leur montrant en fait que de la manière que ça s'est déroulé, ils ne pouvaient pas vraiment arrêter le processus à l'étape où ça en était là, parce qu'ils devaient absolument en fait se rendre jusqu'à l'évaluation psychosociale.
Essentiellement, ils ne peuvent pas refuser un dossier s'il n'a pas été évalué. Et donc, ils ont décidé de nous refuser avant même de nous avoir évalués.
C'est une forme de préjugés ou de discrimination, en fait,
et,
ici.
Oui, exactement.
En parlant avec les avocats de la DPJ, ben, c'est là que, finalement, eux-mêmes se sont rendus compte que la démarche qui avait été arrêtée ne pouvait pas être arrêtée et l'ont remis en route. Et donc, en date d'aujourd'hui, ben là, on sait que les processus ont recommencé. Donc, Jonathan et Justin devraient être recontactés bientôt pour que la poursuite se fasse.
Il y a eu des montagnes russes d'émotions là, au courant de tout ce processus-là. Il y a eu la frustration quand on a eu la réponse négative de la DPJ. Là.
Il y a eu un moment où on pensait que le projet était mort, que ça serait plus possible. On s'est quand même inquiété.
À chaque fois, on se repose la question, est-ce qu'on veut continuer? Et cette question-là, Justin se la pose, mais Jonathan aussi, Eric et ensuite... à trois, donc ça fait beaucoup de discussions, mais c'est des discussions qui sont vraiment importantes à avoir. Mais d'une décision à l'autre et d'une étape à franchir à l'autre, on se re-questionne à chaque fois. Puis je pense que c'est une démarche qui est saine, qu'il faut faire, mais qui demande beaucoup d'énergie aussi.
Puis moi, il y a l'aspect temps aussi qui joue, là, parce que j'ai 41 ans. Puis on a commencé les procédures il y a, tu sais, j'avais 36. Puis là, moi, je vois le temps avancer, puis je calcule, bon, mon âge plus 17 ans, à quel âge, tu sais, plus ça va, puis plus j'angoisse à savoir est-ce qu'il va être trop tard.
Puis s'il y avait eu l'opportunité d'adopter à trois parents, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez eu envie de considérer?
Je pense que oui.
Ben, je pense que oui.
C'est quelque chose qu'on aurait voulu puis qu'on se souhaite, je pense, pour l'avenir aussi. Tu sais, on sait qu'il y a du chemin qui a commencé à se faire, il y a du chemin qui peut se faire aussi plus. Mais pour l'instant, on comprend que si on veut que le rêve que les garçons avaient puis dans lequel je me suis inscrit se réalise, on n'a pas le choix de suivre les chemins qui existent déjà. Donc, on s'inscrit là-dedans, on va poursuivre. Puis une fois qu'on va pouvoir... qu'on va avoir un enfant à la maison puis qu'on va l'aimer, le chérir et tout ça, ben, on pourra évaluer c'est quoi les options pour faire reconnaître un certain rôle légal, voir comment ça peut se réaliser. Mais pour l'instant, on va jouer avec les règles du jeu, mettons, puis après ça, on essaiera de voir si on peut pas créer notre propre jeu.
Eric est auteur. Sa réalité queer et polyamoureuse apparaît souvent en filigrane dans ce qu'il écrit.
Je vais lire un extrait d'un texte que j'ai écrit pour 11 essais queer, qui va être publié chez Somme Toute probablement l'année prochaine. Quoi faire alors de ce 5% de la population qui vit une forme de polyamour, et en particulier de son tiers d'homosexuels qui, pour certains, souhaiteront un jour élever un enfant? Avec une voix discrète au niveau politique, une présence sociale occultée par l'hégémonie du couple, partez-moi pas sur toutes les conventions et objets du quotidien qui sont pensés pour les couples ou familles idéalisées. Trip à un ou à deux au village vacances Val-Cartier, paire de billets au spectacle, chambre à deux à l'hôtel, mariage à deux. Bon, fait qu'avec tout ça et une représentation constamment sexualisée, banalisée ou déformée dans les productions culturelles ou artistiques, quelles premières marches peuvent monter les personnes queer et polyamoureuses pour faire reconnaître leur présence dans la société québécoise? Combien de parents faudra-t-il reléguer dans l'ombre sous prétexte qu'ils n'entrent pas dans la conception occidentale à deux figures parentales aux dépens d'une représentativité réaliste des familles? Ça prenait pas tout un village pour élever un enfant? Je souhaite qu'il y ait plus de visibilité, qu'il y ait plus de valorisation de ces différents modèles-là. Ils existent déjà partout. On les voit, puis ils existent, puis ils fonctionnent.
Notre but, c'est de pouvoir accueillir un enfant qui a des besoins à la maison. Des enfants en difficulté, là, mais des enfants avec des familles dysfonctionnelles, il y en a plein. Des enfants qui ont besoin de familles fonctionnelles, il y en a plein. Donc, moi, je trouve ça aberrant qu'on refuse encore à ces familles-là d'accueillir alors qu'ils ont tout ce qu'il faut à la maison pour pouvoir prendre soin d'eux. Puis je pense qu'il faut se rappeler aussi que derrière ça, ben, par exemple, quand on est trois, c'est trois fois plus d'amour. Donc, est-ce qu'on peut aussi rendre légalement possible des modèles qui sont viables et qui sont beaux?
On a quand même eu beaucoup de chance parce qu'on a pu avoir un accompagnement juridique. On s'est battu, on a de l'énergie, on a des ressources aussi pour nous aider. Puis c'est pas tout le monde qui a ça. Puis je pense qu'il va falloir éventuellement qu'on dépasse ça, puis que ça soit plus une question de chance.
Puis je pense qu'à travers tout ça, il y a aussi des choses très simples à faire, c'est-à-dire juste vivre notre vie comme trouble, de l'afficher et d'en parler ouvertement à notre famille, à nos amis, à répondre à des questions, parce que là, on a des embûches, puis il y a d'autres personnes qui vont avoir ce même parcours-là, donc on veut faciliter le parcours pour les autres. Parce que dans ces démarches-là, au départ, on s'est posé la question, justement, est-ce que on fait ça un peu caché, tu sais? Est-ce que, par exemple, Eric est plutôt juste un colocataire qui habite avec nous? Puis on s'est dit, ça n'a aucun sens, tu sais. Ce qu'on veut, en fait, c'est qu'on reconnaisse notre modèle. Puis dans ce sens-là, qu'on a décidé de rendre ça public, d'en parler à la DPJ. Vous avez interviewé plein de gens dans ce balado-là qui ont des réalités qui sont peut-être un peu différentes des nôtres, mais au bout du compte, c'est la même démarche qu'on veut, c'est rendre visible des choses qui sont moins connues du grand public, parce que nos démarches sont toutes importantes, en fait.
Je reconnais les montagnes russes auxquelles Justin, Eric et Jonathan font référence. Ça fait à peine quelques semaines que je vis ça. Je peux pas imaginer ce qu'on ressent après 5 ans. La peur des derniers jours commence à s'estomper. Le brouillard se dissipe. Je constate qu'au fil des confidences, il y a quelque chose de râpeux qui s'est installé au fond de mon ventre. Ça ressemble à de la colère. Mais il y a aussi quelque chose qui fait un peu de lumière. De l'espoir. Oui. Oui, c'est ça la sensation d'intérieur à vif. C'est la cohabitation entre ces sentiments en apparence contradictoires mais si souvent liés. La colère et l'espoir. Maintenant, j'ai besoin de comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on reconnaît légalement certaines relations, certaines familles, et pas d'autres? C'était le 4e épisode de Parentèle, enquête d'une famille qui nous ressemble. Pour en savoir plus sur le projet, on t'invite à nous rejoindre sur la page venusavelo.com/parentèle. Tu y trouveras toutes les références citées dans cet épisode, ainsi qu'une foule de ressources pour aller plus loin. Ce balado est une production de Vénus à vélo, écrit et réalisé par Maud Boutin-Saint-Pierre avec la collaboration de Kathleen Lorrain-McCarty. Prise de son et conception sonore par Remy Boutin-Saint-Pierre. Musique originale composée par Erika et Jérémy Hagenveilleux. Montage musical, Jérémy Hagenveilleux. Conception et réalisation du visuel, Marie Loubois. Direction vocale, Rosalie Cournoyer. Post-production sonore, Guillaume Côté. Assistance à la réalisation, Philippe Rivard. Direction de production, Marie Tan et Auréliane Massé. Mentorat à l'écriture, Erika Soucy. Bande-annonce animée, Geneviève Tremblay. Merci à toutes les personnes qui ont témoigné à mon micro, Michaël, Aurélie, Justin, Éric et Jonathan. Ce balado n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien du Conseil des arts du Canada, du Conseil des arts et des lettres du Québec et de Première Ovation.